Les colloques du Collège de France.
Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour ce colloque de fin d'année. C'est donc un colloque qui fait suite aux cours que certains d'entre vous peut-être ont suivis au Collège de France pendant l'année universitaire et qui portait sur le remplacement de Néandertal par Sapiens. Alors on a surtout parlé de l'Europe. Et donc vous avez déjà une petite idée de ce que je pense de la transition. D'ailleurs, le fait de mettre un point d'interrogation après transition, c'est déjà une forme de réponse à la question qui est posée. Et ce que j'ai voulu pour ce colloque, c'est inviter des collègues qui vont apporter un regard extérieur à ce débat. C'est un sujet sur lequel il y a des avis très divers, mais j'ai invité des collègues dont j'estime le travail, dont je pense qu'ils font quelque chose de sérieux. Et pour tout dire, vous avez vu les embrassades en bas de l'amphi, ce sont des amis, des gens que je connais pour la plupart depuis très longtemps. Et qui s'intéressent à cette question et donc qui vont vous apporter un regard du côté des industries lithiques dont on n'a pas vraiment parlé pendant le cours, enfin assez peu. Vous allez avoir aussi cet après-midi un exposé sur des problèmes de datation. Vous allez avoir le point de vue d'une paléogénéticienne qui vient de l'Institut de l'Institut Max Planck de Leipzig. Et donc, collectivement, je voudrais remercier tous ces invités pour avoir fait le déplacement et pour venir parler devant nous. Donc, j'ai cité Leipzig, ma collègue Marie Soressi qui vient de l'Université de Leiden. On a une grosse délégation qui vient de Bordeaux, qui est un endroit que je connais bien, une université où le département de préhistoire et d'archéologie préhistorique, de géologie de quaternaire est très très actif depuis très longtemps. Donc pour commencer, je voudrais vous présenter une sorte d'introduction à ce colloque. Donc, je ne vais pas vous raconter des choses très très nouvelles, mais c'est un petit peu pour planter le décor avant d'arriver dans le dur des présentations de nos invités. Alors vous verrez que je vais faire une présentation en français, mais avec des diapos qui sont en anglais. Ça, c'est par respect pour nos collègues qui ne sont pas francophones et qui quand même viennent à un colloque pour suivre un petit peu ce qui se passe. Et eux-mêmes, je pense qu'ils ont fait l'effort de présenter des diapos en français pour les non-anglophones. Donc je vais faire une sorte d'historique de cette question de la transition, de ce problème très général. Et puis ensuite, je poserai quelques questions qui me paraissent être des questions importantes qu'il faut se poser à propos de cette question-là, enfin de cette transition. Et alors, je ne sais pas si à la fin de la journée on pourra répondre à ces questions, mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut avoir en tête. Alors on parle de quoi? Une image que vous avez sans doute déjà vue. Pendant plusieurs centaines de milliers d'années, on a dans l'Ancien Monde, en Afrique et en Eurasie, différents groupes d'hominines qui probablement ont le rang d'espèces. Et on discute beaucoup de cette notion de paléo-espèce, alors ici hybride, c'est vrai, mais c'est vrai pour aussi nombreuses espèces de mammifères de taille moyenne dans les quelques centaines de milliers d'années, voire millions d'années après leur divergence. Ce qui est important, c'est que cette divergence, elle est irréversible d'une certaine façon, et c'est dans cette mesure-là qu'on les reconnaît comme des paléo-espèces. Alors évidemment, ce schéma ne montre pas quelques créatures bizarres qui vivent dans les îles indonésiennes ou au milieu de l'Afrique. En gros, c'est la situation il y a quelques 200 000 ans, 300 000 ans. Donc les ancêtres d'Homo sapiens en Afrique, des Néandertals qui vivent dans l'ouest de l'Eurasie, mais qui se répandent de temps en temps vers l'Asie centrale. Et puis en Asie, il y a un groupe qu'on appelle les Denisoviens, qui est le groupe frère des Néandertaliens. Et il va se produire à un moment donné une sortie d'Afrique des ancêtres des populations actuelles. Alors quand je dis à un moment donné, en fait, on a toutes les raisons de penser que c'est à plusieurs moments, que c'est pas un phénomène unique. Donc il y a eu régulièrement des pulsations hors d'Afrique de populations de sapiens qui d'ailleurs, dans le génome des Néandertaliens, ont déjà apporté du matériel il y a peut-être 300 000 ans ou plus. Pas dans celui des Denisoviens. Mais enfin, à la fin de l'histoire, il y a quand même eu une sortie qui a été la bonne, si je peux dire, et qui a abouti essentiellement au remplacement de toutes les populations qui vivaient en Eurasie, et puis surtout à la colonisation de zones qui n'avaient jamais été occupées par les hominides, l'Australie et puis les zones les plus froides de l'Eurasie. Alors je parle de remplacement, on a déjà beaucoup évoqué la question de l'hybridation, des flux géniques entre toutes ces populations. Ça reste quand même un phénomène relativement marginal, et donc encore une fois on a essentiellement un remplacement. Alors aujourd'hui on va en parler surtout pour l'ouest de l'Eurasie, mais voilà, vous avez deux communications, une sur le Proche-Orient et une sur l'Orient, l'Asie, qui va vous dire un petit peu ce que l'on peut raconter sur cette question-là. Il faut reconnaître quand même que c'est en Europe qu'on a le plus de documentation, aussi bien archéologique que paléontologique, pour discuter de cette période. Alors cette période de remplacement en Europe, depuis longtemps, on l'a assimilée à un passage à des industries qu'on appelle des industries du paléolithique moyen, alors avec toute une variété d'assemblages, avec des variations régionales, donc déjà une forme de différenciation culturelle, si je peux dire, au sein de ces populations néandertaliennes. Et puis, on a l'évolution du paléolithique européen, l'irruption de quelque chose qui est complètement nouveau, qui est ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, avec l'apparition d'assemblages lithiques qui sont quand même assez différents, beaucoup plus stéréotypés, hein, dans la production d'objets, de lames, de lames. Le débitage est assez différent de ce qu'on trouve dans le paléolithique moyen, et puis surtout en production de toutes sortes d'objets, en particulier des pointes d'armes de jet, qui sont aussi bien des armatures en silex que des armatures en os. Je ne vais pas vous faire un cours sur la différence entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, mais ça fait très très longtemps que les archéologues ont reconnu cette grande différence. Et donc, en Europe, en tout cas, on n'a jamais trouvé autre chose que des Néandertaliens associés à du paléolithique moyen. Et pour la plus grosse partie du paléolithique supérieur, on a des Homo sapiens modernes. Vous allez voir que dans le début du paléolithique supérieur, la question est beaucoup moins claire. Alors, la reconnaissance de ce passage d'un monde où on a plusieurs hominines qui peuplent l'Eurasie et l'Afrique, à un monde où une seule espèce peuple toute la planète, c'est quelque chose en fait qui a été vraiment reconnu comme le résultat d'une sortie d'Afrique, en fait, j'allais dire, assez récemment dans l'histoire de la paléanthropologie et de la préhistoire. Disons que jusque dans les années 70-80, dans le fond, l'idée dominante, c'était l'idée d'une évolution locale des populations archaïques vers des populations dites modernes. Donc, dans le domaine de la paléoanthropologie, le modèle dominant, c'était un modèle que l'on appelait multirégional, qui était un modèle où on voyait en Asie l'origine des Asiatiques chez des Homo erectus chinois, et puis en Europe, il y avait pas mal de collègues, alors surtout américains, qui voyaient assez bon œil l'idée que les Néandertals avaient pu évoluer vers en gros l'homme de Cro-Magnon, etc., etc. Et donc c'est des progrès dans les découvertes paléontologiques, mais surtout des progrès dans le domaine de la génétique des populations, dans la paléogénétique plus tard, qui a quand même complètement renversé cette situation, avec, à la fin des années 80, l'irruption de ce modèle out of Africa, alors qu'on a un petit peu tempéré, modéré ensuite, avec la reconnaissance de ces introgressions, de ces flux géniques entre populations migrantes en Eurasie venues d'Afrique et puis les populations locales. Alors, soit dit en passant, les tenants du multirégionalisme se sont immédiatement jetés, si je peux dire, sur ces publications disant qu'il y avait de l'hybridation entre Néandertal et Sapiens, pour dire, voyez, on vous l'avait bien dit, il y a une continuité évolutive régionale. Alors bon, c'est un petit peu joué sur les mots et sur les chiffres, parce qu'encore une fois, on sait que ça concerne qu'une toute petite partie du génome de ces populations. Et d'une façon générale, je pense que ce modèle de remplacement avec une origine africaine, c'est un modèle qui a eu beaucoup de mal, en fait, à être accepté par la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'il a été, adopté avec enthousiasme par quelques chercheurs, mais sur un fond général, un fond culturel, traditionnel, si je peux dire, qui, dans le fond, avait toujours gardé dans un coin de sa tête la possibilité d'une continuité locale. Et dans le domaine de la paléanthropologie, je pense que on voit clairement que dès qu'on remonte un petit peu dans le temps, eh bien, la paléanthropologie en Europe, en tout cas, était marquée par un très très fort europocentrisme. On voyait en Europe l'origine de tout. Je vous ai mis cette photo simplement pour vous rappeler que à l'époque où j'ai passé ma thèse de troisième cycle, il a fallu que je me bagarre avec mon directeur de thèse et les gens qui m'entouraient pour les convaincre qu'en fait ce que eux voyaient comme une origine locale en Europe des Homo sapiens, ce qu'on appelait des pré-sapiens, mais en fait ces fossiles étaient en réalité des Néandertaliens anciens. Et donc c'était une idée qui était assez populaire à cette époque-là. Et dans le domaine de l'archéologie préhistorique, paléolithique, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que il y avait cette idée qu'il y avait une continuité entre ces industries du paléolithique moyen et des industries du paléolithique supérieur en Europe, en certaines d'entre elles. Les archéologues font un métier qui est très difficile, c'est beaucoup de travail de fouiller des sites archéologiques et d'étudier le matériel qui en sort, donc souvent ils connaissent très très bien une région, ce qui se passe là, verticalement dans une zone, ils connaissent parfois moins bien ce qui se passe plus loin, et donc en général ils ont tendance à privilégier les modèles de continuité par rapport aux modèles de remplacement. Mais dans le développement des études paléolithiques, il y a toute une tradition de reconnaître, alors, des industries qu'on a carrément associées à ces fameux pré-sapiens européens, par exemple une industrie on parle plus beaucoup aujourd'hui, qu'on a appelée le Taillacien, quasiment une industrie qu'on a créée pour justifier ces pré-sapiens européens. Et puis, des chercheurs qui ont été très très influents ont reconnu des continuités entre certains de ces assemblages de la fin du paléolithique moyen et puis ceux du début du paléolithique supérieur. Là, je vous ai citer un exemple, hein, qui est celui de la continuité supposée entre quelque chose qu'on appelle le moustérien de tradition acheuléenne de type B, dans le sud-ouest de la France en particulier, et puis une des premières industries du paléolithique supérieur qu'on appelle le châtel péronien. Et encore aujourd'hui, chaque fois qu'on trouve quelque chose qui ressemble à un débitage levallois ou une pointe levallois un peu allongée dans le début du paléolithique supérieur, immédiatement il y a une lumière rouge néandertale qui s'allume et on nous dit ben voilà, c'est bien la preuve que Néandertal est dans le coin. Alors en fait, au cours de cette évolution des idées, il est quand même très vite apparu qu'il y avait quand même un petit souci avec ce remplacement d'un paléolithique moyen par un paléolithique supérieur et puis des néandertaliens dans l'ouest de l'Eurasie par des homo sapiens venus d'Afrique. Eh bien, ce sont ces fameuses industries de transition dont voilà une carte, donc cette mosaïque de couleurs, qu'est-ce qu'elle représente ? Des assemblages qu'on connaît dans l'ouest de l'Eurasie, dont la durée est assez limitée, hein, on parle de quelques millénaires, qui ont des distributions géographiques assez particulières, ils sont en général assez bien délimités, donc on a reconnu un certain nombre, et ces assemblages, eh bien, dans le fond, on était bien content de les avoir, parce que justement, ils étayaient cette notion de continuité locale. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, on les appelait de transition, parce qu'ils semblaient présenter, du point de vue technotypologique, des caractères mixtes entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Alors moi, je suis tombé dans la marmite des industries de transition tout petit, hein, donc au début de ma carrière, ouais, j'ai publié un article dans la revue Nature, dont j'étais très fier à l'époque, qui m'a attiré pas mal de soucis dans la suite de ma carrière, et même, je dois dire, une certaine animosité qui est allée parfois jusqu'à des ennuis que je qualifierais de personnels, qui ont pour source en fait les débats et les conflits autour de cette publication. Qu'est-ce que c'est que cette publication ? Eh bien, c'était le fait qu'on avait reconnu dans une des industries qui se trouve à la charnière entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, ce fameux châtel péronien que j'ai cité tout à l'heure, on trouvait des restes de néandertaliens qui étaient tout à fait identifiables. Il y a eu de nombreuses études sur ces fossiles que une de mes jeunes collègues va vous présenter tout à l'heure. Et donc, c'était quelque chose qui avait été déjà soupçonné depuis un certain temps, mais dans le fond, la découverte, enfin la reconnaissance de ces néandertaliens associés à du châtel péronien a étayé l'idée que, dans le fond, ces industries de transition pouvaient représenter un passage vers le paléolithique supérieur de populations néandertaliennes locales. Donc, en gros, les néandertaliens avaient opéré leur transition, si je peux dire, vers le paléolithique supérieur. Alors, il y avait un débat de nature philosophico-politique, c'est un peu du paléo-wokisme avant la lettre, hein, mais en gros, on discutait pour savoir si est-ce que c'était vraiment eux qui avaient tout seuls trouvé le paléolithique supérieur ou s'ils avaient été influencés par des sapiens qui étaient dans le coin, et évidemment, ce qui était une suggestion totalement politiquement incorrecte à l'époque. Mais on s'est retrouvé quand même avec cette idée que ces industries de transition étaient le fait de néandertaliens tardifs. Alors, je dois dire que cette question de l'association du châtel péronien avec des néandertaliens reste quand même toujours aujourd'hui un caillou dans notre chaussure. Hein. Pourquoi ? Parce que on a une industrie qui... Alors, je vous ai parlé d'industrie de transition. Dans le cas du châtel péronien, c'est une industrie qui a une allure très très paléolithique supérieur en réalité. Hein. Et donc c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est autour de ce Châtel-Porrignien que s'est cristallisé ce débat sur l'évolution des Néandertaliens, puisque en gros c'était le meilleur exemple d'un progrès chez les Néandertaliens tardifs. On n'a pas autant de fossiles qu'on aimerait associer à du Châtel-Porrignien. On discute beaucoup d'ailleurs de l'association des fossiles humains avec le Châtel-Porrignien, mais enfin le fait est que on a au moins trois sites dans lesquels on a des restes néandertaliens qui sont trouvés dans des niveaux châtel-perroniens. Alors est-ce qu'ils sont vraiment les artisans de ce châtel-perronien, c'est une autre histoire, mais le fait est que ces fossiles dans ces trois sites produisent des dates directes qui sont compatibles avec l'âge du châtel-perronien. Donc on soupçonne quand même qu'il y a des Néandertaliens dans le coin, même si ce ne sont pas les auteurs du Châtel-Porrignien. Alors cette notion des industries de transition produites par les derniers Néandertaliens, c'est quelque chose qui a été assez populaire. Dans la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait une grosse bande bleue sur le nord de l'Europe, depuis les îles britanniques jusqu'à la Pologne, pour une industrie qu'on appelle l'incombien ranicien germanovicien, LRJ dans le jargon paléolithique, qui était reconnu comme quelque chose qui, par certains traits, pouvait rappeler le paléolithique moyen local, avec en particulier l'espèce de grosses pointes foliacées, mais aussi la production de pointes et puis de tout un attirail d'outils qui était clairement paléolithique supérieur. Et pendant un moment, on a vraiment cru que ce LRJ était produit lui aussi par des Néandertaliens terminaux. Je vous montre des dates qui avaient été publiées. Je vous parle pas de la nuit des temps, hein, c'est il y a une quinzaine d'années, des dates qui avaient été publiées pour ce LRJ dans la grotte de Spie en Belgique, et il se trouve que dans la grotte de Spie en Belgique, on a des Néandertaliens qui ont été découverts à la fin du 19e siècle, et on associait volontiers ce LRJ à ces Néandertaliens en raison de dates relativement tardives de ces ossements. Alors, par la suite, on s'est rendu compte que ces dates, elles devaient être complètement révisées, et qu'en fait, ces dates récentes, elles étaient essentiellement le produit d'une contamination. On avait une situation assez comparable en Italie et en Grèce avec une industrie qu'on appelle l'Uluzien, qui semblait être un équivalent méditerranéen du Châtel-Porrignien, avec là encore l'idée que c'était les Néandertaliens locaux qui avaient fabriqué cet assemblage au caractère un petit peu hybride. Alors il y a eu quand même dans les années, début des années 2010, un sérieux point d'interrogation qui a été posé par l'Uluzien, avec la publication par un de nos collègues italiens qui s'appelle Stefano Benazzi, qui a publié des dents découvertes dans un des sites uludiens du sud de l'Italie, des dents déciduales qui ont toutes les caractéristiques de dents d'Homo sapiens moderne. Alors comme toujours, ça a été extrêmement discuté, débattu, est-ce que ces dents sont bien en place, etc. C'est une fouille ancienne qui avait produit ces découvertes. Mais depuis cette publication, il y a eu d'autres dents découvertes dans d'autres sites uludiens, et il semble bien que l'Uluzien, en fait, ait été non pas produit par des Néandertaliens tardifs, mais sans doute par des sapiens. Alors les choses ont continué à évoluer assez rapidement avec l'intrusion de l'arrivée de méthodes qui sont des méthodes moléculaires pour trier les assemblages osseux. Et ces méthodes, en gros, permettent à faible coût et avec un débit assez rapide d'identifier l'espèce ou le genre au moins auxquels appartiennent les nombreux fragments osseux qu'on peut trouver dans des sites paléolithiques de cette période. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que, en appliquant ces méthodes à des centaines, voire des milliers de fragments non identifiés dans certains niveaux archéologiques, eh bien, on pouvait reconnaître des restes humains. Et ensuite, ces restes humains, une fois identifiés, on pouvait les dater, on pouvait les passer à des paléogénéticiens qui en extrayaient l'ADN et savoir de quoi il s'agissait. Et ces techniques ont commencé à se développer énormément au cours des derniers, disons, la dernière douzaine d'années. Pour ma part, enfin, mon équipe l'a appliqué dans plusieurs sites. Alors, je vous en montre un. C'est le site de Batchokiro en Bulgarie, donc on est à peu près à 70 km au sud du cours du Danube, dans le nord des Balkans. Et dans cette grotte de Batchokiro, on a une de ces fameuses industries dont on ne savait pas trop quoi faire, à la limite entre le poétique moyen et le poétique supérieur. Alors, on l'avait appelé le Batchokirien. Et c'est un assemblage lithique dont on va vous parler aujourd'hui et qui semble être quelque chose qui se développe à partir d'un foyer situé quelque part dans le désert du Negev ou au Levant d'une façon générale, et dont on trouve les traces non seulement dans l'Est et le centre de l'Europe, mais aussi vers l'Est, vers l'Asie centrale et beaucoup plus loin vers l'Extrême-Orient. Et donc ces méthodes dont je vous parle, appliquées à Batchokiro, ont permis d'identifier des fragments osseux comme humains et de tirer de l'ADN de ces fragments osseux. Et là encore, on a montré que, eh bien, pour une de ces industries, donc de cette période dite de transition, eh bien, on avait en fait non pas affaire à des Néandertaliens tardifs, mais à des Homo sapiens. Ces Homo sapiens, ils ont un génome dans lequel on trouve des petites traces d'ADN néandertalien. C'est ce que vous voyez marqué en bleu sur les chromosomes de cet individu. Et vous voyez qu'on a des introgressions d'ADN néandertalien de différentes tailles, donc des tout petits fragments d'ADN néandertalien qui sont hérités de contacts à la sortie d'Afrique des ancêtres de ces hommes, et puis des grands morceaux d'ADN qui, eux, sont le résultat de contacts locaux, donc deux épisodes d'hybridation. Puis l'autre, information importante qu'on a sortie de ces fossiles de Batchokiro, c'est que, en fait, ces populations de sapiens étaient donc très anciennes, et bien n'avaient pas laissé de traces dans les populations plus tardives du Paléolithique supérieur en Europe. On trouvait leurs traces en Asie, très loin, mais en Europe, apparemment, sont des populations pionnières qui sont dissoutes, si je peux dire, sans laisser de traces. Une situation qu'on trouve probablement dans un autre site qui n'est pas très loin, qui est le site de Pestera Cuvasei en Roumanie, où on a là aussi les traces d'une population de sapiens anciens avec des contacts locaux. Alors, par la suite, on a trouvé des restes humains qui sont tout à fait démonstratifs du point de vue anatomique à Batchokiro. Donc à Batchokiro, on a une arrivée pendant cette période dite de transition de sapiens, et ces sapiens, on a pu les dater, et vous voyez que leur âge est un âge qui va au-delà de 40 000 ans, même au-delà de 45 000 pour certains individus. Et c'est un âge qui était beaucoup plus ancien que ce qu'on on envisageait jusqu'alors. Pour mémoire, je vous donne ici la date de Néandertal tardif qui ont été découverts dans l'ouest de l'Europe. Et donc, ces découvertes, en fait, ont posé vraiment la question de savoir quelle était la durée de cette transition entre l'arrivée des premiers sapiens dans l'est de l'Europe et puis la disparition des derniers néandertaliens dans l'ouest du continent. Alors, une découverte un peu du même genre a été faite dans un site qui s'appelle Ranis, qui est en Allemagne, en Thuringe, et dont on va vous parler aussi aujourd'hui. Et alors Ranis, c'est le site éponyme du Ranicien, vous savez, ce Ranicien qui est le R de LRJ, hein. Et à Ranis, eh bien, on a obtenu des dates pour des restes de sapiens, alors toujours pareil, identifiés comme ça à partir de fragments morphologiquement pas très intéressants, mais qui contiennent de l'ADN. On s'est rendu compte qu'on avait à Ranis des sapiens qui étaient même encore un petit peu plus anciens que ceux de Bacciochiro, et on a des datations directes d'individus à Ranis de sapiens qui vont à au-delà de largement au-delà de 45 000, je crois que le plus ancien est à 47 500 datés directement. Alors ce qui est intéressant avec ces formes de Ranis, c'est que premièrement, elles sont différentes de celles de Bacciochiro. Deuxièmement, donc c'est une autre population pionnière. Deuxièmement, ce sont des populations qui, elles aussi, ne semblent pas avoir laissé beaucoup de traces dans les populations européennes plus tardives. Et puis, l'autre différence avec Bacciochiro, c'est que ces gens-là ne portent pas d'ADN néandertalien qui soit hérité localement. C'est de l'ADN néandertalien qui a été acquis à la sortie d'Afrique. Une situation qu'on a reconnue dans un autre fossile de la même époque, qui est pas daté directement par radiocarbone, mais qu'on a pu dater autrement, en particulier justement à cause des données génétiques, et qui est un crâne découvert en République tchèque, un site qui s'appelle Zlatikoun. Et là encore, on a un fossile qui a autour de 45 000 ans, avec une morphologie moderne, un ADN qui n'a pas de lien avec les populations du Paléolithique supérieur plus tardives, et puis des gens qui, eux, localement, manifestement, ne se mélangent pas avec les Néandertaliens avec qui ils ont pu être en contact. Alors tout ça a donné récemment plusieurs papiers qui sont très importants de mon point de vue, hein, des papiers qui ont étudié la paléogénétique de Bacciochiro, de Ranis, vous allez en entendre parler cet après-midi, et des papiers qui se sont aussi intéressés à cette question de l'âge de ces contacts entre sapiens et Néandertal autour de ce remplacement. Ça a été une grande surprise. On s'est rendu compte que l'introgression, les fameux 2% d'ADN néandertalien que vous et moi nous portons, eh bien, c'est une introgression qui date d'une période qui est beaucoup plus récente que ce qu'on avait imaginé jusqu'alors. Disons qu'on a une date qui a été estimée qui est plutôt autour de 48 000. Et donc, ça veut dire que malgré ces pulsations hors d'Afrique plus ou moins anciennes, dans le fond, la sortie d'Afrique, j'allais dire la bonne, celle qui a fini par donner toutes les populations actuelles qu'on trouve partout sur la planète hors d'Afrique, eh bien, c'est une sortie qui est relativement récente. Et donc, à cette sortie d'Afrique, on a eu une introgression d'ADN néandertalien. Et puis, à partir de là, on a toute une série de vagues de peuplements qui ont couvert le reste du monde. Et vous voyez que ces vagues, eh ben, au début, sont plutôt des vaguelettes, c'est-à-dire qu'on a des populations pionnières, comme celle de Ranis, Latikoun ou de Bacciochiro, qui sont un petit peu des cul-de-sac. D'ailleurs, on pense que ce sont des toutes petites populations de quelques centaines d'individus, avant que ne se produisent, toujours à partir de la même région à la sortie d'Afrique, des peuplements plus importants qui vont donner les habitants actuels de l'ouest et de l'est de l'Eurasie. Alors, pour clore ma présentation qui a été un peu longue, je voudrais simplement soulever trois ou quatre questions qui sont des questions qui restent irrésolues, ou alors en partie résolue ou en voie d'être résolue. Alors d'abord, cette question du remplacement versus assimilation. Je vous ai raconté tout à l'heure qu'au moment où on a découvert la possibilité d'hybridation entre Néandertal et Sapiens, et même l'existence d'introgression d'ADN néandertalien dans le génome des ancêtres des humains actuels hors d'Afrique, les gens qui étaient des partisans du multirégionalisme se sont jetés là-dessus en disant « Voyez, on vous l'avait dit, il y a de la continuité locale ». Alors en fait, cette idée, elle est toujours très en faveur. Hein. Il y a beaucoup d'archéologues et beaucoup même de paléanthropologues qui aiment bien cette idée que, dans le fond, l'expansion des sapiens en Eurasie, localement, s'est traduit par une absorption des populations néandertaliennes ou dénisoviennes, et que c'est pour ça que vous et moi, on a un petit peu de cet ADN local. Alors en fait, si on lit bien les publications qui ont été faites ces 2-3 dernières années, on voit que c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est que ces 2% d'ADN, ils viennent de population, d'une population ou d'un groupe de population néandertalienne bien précis qui se trouvait probablement à la sortie d'Afrique. Donc le scénario, c'est plutôt celui-là. On a une distribution néandertalienne, on a des populations de sapiens qui sortent d'Afrique assez récemment, il y a 48 000 ans. Alors il y a déjà eu des sorties avant, hein. Et là, dans cette région-là, alors on ne sait pas où exactement, hein, mais il y a cette introgression d'ADN néandertalien. Et à partir de ce réservoir, on va avoir d'abord des petites populations qui vont venir à la fois en Europe et d'autres qui vont partir vers l'Asie centrale et vers l'Asie. Et ces populations pionnières, comme celle de Ranis, comme celle de Bachoquiro, comme celle de Pestera, Coase, etc., eh bien, sauf exception, enfin en tout cas en Europe, elles vont disparaître, d'accord. Alors il en reste, pour Bachoquiro, il en reste des traces en Asie, mais pour l'Europe, c'est pas le cas. Et plus tard, il va y avoir toujours à partir du même réservoir, une autre arrivée de sapiens, probablement en association avec un assemblage qu'on appelle l'Aurignacien. Et celui-là, il va marquer la fin des Néandertaliens. Et celui-là, il n'a pas de contact direct avec les Néandertaliens en Eurasie. Et donc ça veut dire une chose. Ça veut dire que, en fait, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe occidentale. Eh bien, il n'y a pas d'assimilation en réalité. Donc, vos 2% d'ADN néandertalien, c'est pas l'ADN de l'homme de la chapelle au sein ou de la Ferracie que vous pouvez voir dans l'exposition qui est derrière vous, mais c'est quelque chose qui a été hérité d'une population quelque part au Proche ou au Moyen-Orient de néandertaliens. Et donc, on a bien un remplacement pratiquement intégral et pas d'assimilation. Alors il y a une autre question qu'on se pose et pour laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant, c'est la question de pourquoi dans le fond ces sapiens sont venus se répandre dans les hautes latitudes de l'Eurasie, enfin les moyennes puis les hautes latitudes. Les premières pulsations hors d'Afrique, on a assez facilement mis ça en relation avec des modifications climatiques, en particulier les épisodes de Sahara vert. Là, pour ceux dont on parle maintenant, c'est-à-dire ces peuplements pionniers à Ranis, à Bachoquiro ou ailleurs, c'est pas du tout le cas. On a des données de paléotempérature qui montrent que ces gens d'origine africaine arrivent dans des environnements qui sont dans des environnements en fait très froids et très différents de ceux dont ils sont originaires. Et donc c'est pas, j'allais dire, c'est pas l'environnement européen qui les a attirés, si je peux dire, en termes climatiques ou environnementaux, mais c'est probablement des mécanismes qui sont en jeu dans leur zone d'origine qui fait que ils partent très très loin. Il y a une autre question qui, je pense, mérite qu'on s'y intéresse encore, c'est la question de la chronologie. Alors on a fait énormément de progrès avec le radiocarbone. Mais il reste quand même que cette période de transition est une période qui est très très délicate. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve à la limite de l'application de la méthode du radiocarbone, et qu'en plus de ça, c'est une période où, c'est ce qui est montré dans le graphique de gauche, on a une variation très importante de la quantité de radiocarbone dans l'atmosphère. C'est lié à une inversion très courte du champ magnétique terrestre. Et en gros, on a un chronomètre dont la vitesse varie autour de 40 000 ans, donc il est plutôt trop lent avant et trop rapide après. Et ça a amené au cours des efforts de calibration de la courbe du radiocarbone pour ces périodes-là à des changements de datation. En gros, on a contracté un petit peu la chronologie, mais il reste encore de nombreux problèmes autour de ça. Je vous en cite deux qui seront peut-être évoqués aujourd'hui à la fin de la journée. Il y a un certain nombre d'objets qui ont été datés directement, qui se situent justement dans cette zone un peu critique. Alors, je vous ai mis à gauche ici une phalange de Megaceros qui vient d'un site allemand du Harz. Et cette phalange, eh bien, elle a été publiée et vendue comme un objet d'art, si je peux dire, un objet symbolique néandertalien. Pourquoi ? Parce qu'elle a été datée autour de 51 000. Alors, autour de 51 000, il n'y a encore pas très longtemps, on n'imaginait pas qu'il y ait des sapiens en Europe. Alors le problème, c'est que cette datation directe de cette phalange de Megaceros, quand on prend l'intervalle de confiance à 95% de la date radiocarbone, eh bien on voit que le minimum il est à 47 500, c'est-à-dire c'est l'âge des premiers sapiens qu'on trouve à Ranis. Et donc, je pense qu'on n'est plus très sûr en fait que la datation de cet objet l'attribue de façon certaine à des Néandertaliens. Et puis à droite, je vous ai mis une image rupestre qui vient d'Extrémadour dans l'Espagne et que l'on a attribuée à des Néandertaliens. Toujours pareil, sur la base de datation de la calcite qui est déposée sur cette peinture, vous verrez en fin de journée, vous aurez une présentation qui montre qu'on a peut-être quelques soucis à se faire avec ce genre de datation. Dernière question, si je peux dire, qui se pose, des industries qui sont dans cette période, qui pourraient pour certaines représenter des intrusions encore plus anciennes de sapiens en Europe occidentale. C'est le cas du Néronien dans le sud de la France. Alors ce Néronien, il a été vendu comme produit par des sapiens il y a plus de 50 000 ans. Si c'était confirmé, ça ne ferait que complexifier un petit peu plus cette histoire que je viens de vous raconter brièvement. Mais on en parlera peut-être aujourd'hui. Tout le monde n'est pas d'accord sur la nature de l'artisan du Néronien. Et puis notre fameux Châtelperronien qui continue à être un caillou dans notre chaussure, comme je le disais tout à l'heure. Et on a récemment découvert dans le site d'Arcy-sur-Cure, enfin décrit, un tout petit bout de bassin dont on pense qu'il pourrait être en fait celui d'un nouveau-né de sapiens mêlé au reste de Néandertaliens. Vous voyez, il y a encore beaucoup de questions à résoudre. Et je vous remercie pour votre attention. Évidemment, la question ultime qu'on ne va pas vraiment discuter aujourd'hui, c'est ultimement pourquoi est-ce qu'il y a eu un remplacement, en fait. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.